Megillah chapitre 5, chers amis, Hachem Alechem Tihyou, les Orechem Tovim Shanim Neemim. Le chapitre 5 commence. Vayi Bayom Ashelishi Vatilbash Esther Malchut. Et ce fut le troisième jour du jeûne. Nous sommes le 15 Nissan, le jour de Pessah. Donc ils ont jeûné le 13, le 14 et le 15. Et au troisième jour de jeûne, il est dit, Esther se revêtit de majesté. Vatilbash Esther Malchut. Vata'amod Bahatsar Betamelech Apenimit. Et elle se tint debout devant le parvis intérieur du palais, face à la salle du trône. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée. Alors ici, les Chachamim disent, il n'est pas dit qu'elle se revêtit de parure royale, de vêtements royaux. Il est juste dit qu'elle va tilbash Esther Malchut. Chachamim disent, il s'agit de Roi HaKodesh, l'esprit prophétique qui l'enveloppa. Le Zohar dit que la majesté, le roi Kodesh, la Malchut, habille les justes quand leur corps est affaibli. Le roi Kodesh ne peut, et l'esprit prophétique ne peut venir sur quelqu'un que lorsque son corps est totalement maîtrisé, affaibli. C'est le souffle, la Neshama, le Ruach qui le maintient en vie. Et de suite, il est dit que Esther était debout sur le parvis intérieur, devant le trône royal. Il n'est pas précisé, il aurait dû dire, elle s'est habillée, elle est sortie de ses appartements, elle a entrepris d'aller de l'autre côté du palais, dans les appartements du roi, ou sur la salle de trône, etc. Mais tout ça n'est pas dit. Il est dit, de suite, elle s'est revêtie de majesté, Roi HaKodesh, de suite, elle s'est retrouvée debout sur le parvis de la cour intérieure. Ici, il est fait référence à la Tefila. Esther a élevé une Tefila à l'Hachem. Le roi du monde, qui est assis sur son trône. La prière du matin se compose de quatre parties. Les Korbanot, les Psukei des Zimra, les brachot du Kriyat Shema, et enfin la Amida. La Amida, il dit, on est debout devant Hachem. Et c'est ce qui a marqué ici. Elle a entrepris de faire la Tfila, c'est-à-dire qu'elle s'est habillée de Roi HaKodesh. La Tfila mène à la Dvekut Bashem. Et c'est mentionné dans Shulchan Aruch que la Bahina de Tfila, le concept de Tfila, c'est atteindre la prophétie. C'est un concept prophétique, s'attacher à Hachem, avoir l'inspiration. C'est ce qu'elle a fait. Elle a prié. Elle s'est et elle est arrivée à se tenir devant le trône royal. Et c'est alors que le roi lui a tendu le sceptre de pouvoir, le symbole de la malchut, du pouvoir temporel, qui dépend du pouvoir spirituel. Nos maîtres disent, ils soulignent que le sceptre était dans la main de Ahasvéros. C'est étonnant. En soi, c'est un miracle. Pourquoi ? Il dit parce que justement, la loi était quoi ? Était que tout celui qui se présente devant le parvis de la cour intérieure sans avoir été invité. Alors, il y avait là-bas deux soldats, deux gardes, qui attendaient un instant si le roi allait tendre le sceptre ou pas. Si le roi ne tend pas le sceptre, immédiatement, la personne est mise à mort, à l'endroit même. Mais le roi n'a pas le sceptre. Imaginons que le roi va tenir le sceptre continuellement dans sa main. Donc, le sceptre est posé. Et il prend un certain temps pour, s'il désire laisser en vie la personne qui s'est présentée, il doit le saisir ou le demander. Ça prend un temps. Et ce temps-là, déjà la personne a déjà été mise à mort. Mais là, il est dit que le roi tenait le sceptre dans sa main. C'est déjà exceptionnel. Et Esther s'avance et touche le sceptre. Vatiga, be Rosh Hasharbit. Rosh Hasharbit, le charbit, ce sceptre-là, c'est le bâton de Moshe Rabbeinu. Le bâton avec lequel Moshe Rabbeinu a fait des miracles. C'est le pouvoir temporel, la royauté, les empires. Le Maharal explique que les empires qui ont détruit, qui dominent Israël, se sont accaparés du malchut d'Israël. Et ce malchut-là, il est symbolisé par le sceptre de Moshe Rabbeinu. Et elle touche le bout du sceptre, l'extrémité. C'est comme si que les 10 éléments du pouvoir, qui sont en vérité les 10 sphirotes, elles touchent le keter, la couronne du sceptre. Elle est en lien avec cette couronne. Parce que Akadosh Baruch Hu lui a concédé là, a accepté, exaucé sa prière. Et nous allons voir tout de suite que cela se déroule de manière extraordinaire. Alors elle se tenait là, et il est dit, Vatissa hen va hesed lefanav. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Mais de quoi? Mais quand elle se présente, elle approche, le roi lui dit, voyons, Merla, Meler, Malach, Esther, Amalka. Que t'arrive-t-il, Esther, la reine? Il la voit. De loin, il l'avait vue. Agréable. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Mais quand elle s'approche, il la voit défaite. Évidemment, elle venait de jeûner 3 jours. Elle est fatiguée. Elle a de la lassitude. Elle n'est pas agréable de près. C'est sa prière. Elle a prié cela. Elle a prié Hachem de trouver grâce aux yeux du roi qui lui tende le sceptre. Mais elle a prié aussi Hachem que le roi ne la trouve pas suffisamment agréable pour lui demander et exiger d'elle de s'unir à elle, d'avoir un rapport. Ça, elle n'a pas voulu. Et on voit que Dieu lui a exaucé en cela. Et le roi lui dit, Malach Esther, demande-moi fais ta demande, exprime ta demande. Il sait pertinemment qu'elle s'est mise en danger, qu'elle est venue jusque-là parce qu'elle a une requête, elle a une demande. Et je suis prêt à accorder jusqu'à la moitié du royaume. Comme il est dit dans les textes, que l'amour qu'un homme porte à son prochain ne peut pas aller au-delà de la moitié de ce qu'il possède de lui-même. Faire en sorte de se partager avec l'autre, c'est ça l'alliance des morceaux, c'est-à-dire que on contracte l'alliance, koret birit, koret ça veut dire couper l'alliance. Alors, pour le Gaon de Vilna demande pourquoi il faut couper quand on fait l'alliance, en vérité, l'alliance c'est se relier. Alors il dit, le Gaon, que quand on coupe l'alliance avec l'autre, c'est que couper une moitié de soi et faire la place à la moitié de soi avec à l'autre. Et là où j'irai, j'emporte avec moi la part de l'autre. Je suis tout le temps lié à l'autre parce que j'ai fait une place en moi, la place à l'autre en moi. C'est jusqu'à la moitié parce que mon moi n'existe que jusqu'à la moitié. Mais si je vais au-delà de la moitié, je n'existe plus. Comme dit le verset dans Shir HaShirim, Imiteni shet kol hon beto ba'ava, bozia buzulo, si un homme va donner tout ce qu'il a par amour, alors il obtiendra que le dédain, on se moquera de lui parce qu'il n'existera plus. Il faut, c'est ce que Rabbi Akiva enseignait, quand il y avait deux qui étaient dans le désert avec une bouteille d'eau, il a dit, il faut pas partager parce que si tu partages l'eau, toi aussi tu vas mourir. Donc, Hayecha Kodmim, ça veut dire que la moitié, je suis prêt à donner la moitié, mais pas tout. Et c'est ça ce qu'il lui dit. Ad Hatsia Malchut Vateas. Et Esther ne dit pas de quoi il s'agit. Elle invite le roi, elle lui dit, ma volonté, c'est que tu viennes, toi, le roi, au Mishté que je t'ai préparé. Le Mishté est déjà prêt. Et elle lui dit que le roi et Haman viennent aujourd'hui au banquet que j'ai préparé. Dans ce verset, le Harizal dit Yavo Ameler Ve'aman Hayom, dans ce verset apparaissent les quatre lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, dans l'ordre. Nous sommes le 15 Nissan. C'est le jour où ce nom-là est apparu lors de la sortie d'Égypte. Ce nom-là traduit la conduite miraculeuse de ce monde pour Israël. Nous avons dit que la conduite du monde était endormie. Et là, le soir, le jour de Pessah, elle apparaît dans toute sa puissance. Elle commence à apparaître. C'est dans les Rachet Tevot, le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, mais il y est mentionné de manière claire pour ceux qui savent ouvrir les yeux et le voir. Alors, la force de la Kdusha va se jaillir. Le roi déclare, dites à Aman, vite, vite, qu'il vienne. Pressez Aman de venir. Et lors du Mishté, Esther, le roi demande, lors du Mishké, voyons mère Améler, la Esther de Mishné Ayaïn. Il est en train de boire, il fait honneur au banquet que Esther a préparé. Il lui fait honneur, il boit. Mais Chachamim disent qu'il n'a pas seulement bu, il l'a partagé, il l'a servi Esther. Tu bois avec moi. Pour lui montrer son amour, ce partage-là traduit son attachement, son amour. Il est prêt à tout pour elle. Esther ne boit pas. Et elle lui dit, ma demande et ma requête, c'est que demain, je préparerai un autre banquet et vous viendrez, toi et Aman, à ce banquet. La question qui se pose, c'est pourquoi demain? Pourquoi repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Le roi est bien, il est dans un... C'est un moment propice où le roi est de bonne humeur. Il est prêt à céder, à accorder à Esther tout ce qu'elle veut. Pourquoi attendre demain? Cette question-là est soulevée par les maîtres. Mais si nous analysons la lutte contre Amalek, dans la paracha de la semaine, nous allons voir, dans la paracha de Zachor, nous allons voir celle que nous lisons le jour de Pourim. Il est dit, voyez-vous, Amalek, voyez lahem Israël birfidim. Amalek est venu et a lutté et a combattu Israël à un endroit qui s'appelle Refidim. Voyons, mais à Moshe et Yoshua. Moshe dit alors à Yoshua, choisis-nous des hommes. Behar lanu anashim. Vetsei lahem ba Amalek. Et sors combattre Amalek. Puis il rajoute, mahar, demain, anochi nitzav al grosh agiva, je monterai sur le haut de la colline avec le bâton de Dieu, au Matea Elohim Biadi, et je me tiendrai là-bas. Et c'est demain que la bataille se déroulera. Là, nous voyons qu'il y a un concept de demain. C'est étonnant. Le pasouk, la paracha est étonnante parce qu'il est déjà dit en introduction qu'Amalek est là et combat. Il fait déjà la guerre. Alors pourquoi Moshe dit demain, aujourd'hui, immédiatement? Mais immédiatement, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Yoshua Behar Lanu Anashim, choisis-nous des hommes et sors combattre Amalek. Et demain? Alors le combat commence aujourd'hui ou demain? C'est exactement cette paracha-là qui est inscrite à la fin de Parashat Beshalach, fait allusion certaine à la Megillah. Aman a déjà combattu. Aman est déjà là sur place et combat. Il a déjà établi les règles de la guerre. Il a obtenu de Hachverosh le décret. Tout est prêt pour l'extermination Chas v'Shalom d'Israël. Mordechai le sait. Mordechai, c'est Moshe Rabbeinu. Il sait. Et il dit à Yoshua, tout de suite, Behar lanu anashim, prépare. Choisis des hommes capables de lutter contre Amalek, des hommes exceptionnels, des gens de qualité, qualité physique, mais surtout qualité spirituelle, des gens qui se préparent et sortent immédiatement combattre. C'est l'action du bas. Et Moshe lui dit, moi, je combattrai en haut, je monterai demain. Pourquoi demain? Nous disent nos maîtres que le concept de demain, c'est le temps à venir. La guerre de Amalek dure 6000 ans. Tant que le monde est ce qu'il est, c'est que les 6000 ans que Hachem a concédé à ce monde, les 6 jours de la semaine, dans ces jours-là, il y a de la sainteté et du profane. Si la sainteté prend le dessus, alors tout va pour le mieux. Si c'est le profane qui prend le dessus, le hol, alors le profane va entraîner la sainteté, la dominer, et va mener le monde à l'oubli d'Hachem. Il va mener le monde à la Touma, c'est la Touma qui va prendre le dessus. Ça, c'est le aujourd'hui. Mahar, demain, c'est le temps qui vient après cela. Comme dit la fin du verset, qui ad al kesia milham al Hachem ba Amalek midor dor. Tant que le Amalek existe, le nom de Dieu, le trône de Dieu est incomplet. Viendra un jour où il sera complet. Que Amalek n'aura aucune part, n'aura plus de place dans ce monde. Ça, c'est Maha. C'est la fin des temps. C'est le Shabbat. C'est pour ça que Esther dit au roi, demain, c'est demain que ça se passera. La guerre a déjà commencé. Elle a déjà commencé à lutter. La prière, la préparation, la tchouva, le repentir, le cri, les cris soulevés qui se sont élevés par Mordechai, le cri amer qu'il a élevé vers Hachem. L'étude de la Torah, la tfila et les jeûnes, la guerre est déjà entamée. Mais d'un autre ordre, comment cela va se réaliser dans ce monde? C'est demain que nous allons le voir. C'est ça le demain. Ça, c'est la raison pourquoi elle dit demain. Parce que la guerre sera réussie que demain. Nous continuons. Donc, de suite, Aman sort de ce michté et regarde, voit Mordechai qui ne bouge pas. Il se dit, je suis au top, au sommet de ma gloire. Je suis au plus haut de mon pouvoir. Et ce bonhomme-là, ce petit homme, ce tout petit, ce moins que rien, encore agit de la sorte, il me gâche tout mon plaisir. Toute ma réussite est gâchée par sa présence. Nous avons ici la définition même de Amalek. Qu'est-ce que Amalek? Il est étonnant qu'un homme qui est au plus haut de son pouvoir, tienne compte de l'attitude d'un va-nu-pied qu'il considère lui-même comme un moins que rien. Je ne me fais même pas attention à toi. Qu'est-ce que c'est que cela? Je marche, moi, l'homme supérieur, l'homme des hauteurs, l'homme qui évolue dans les sphères du pouvoir les plus insondables, les plus hautes. Je suis l'ami du roi et de la reine. Et je tiens compte de l'attitude d'un va-nu-pied, d'un moins que rien. C'est étonnant. Nous avons ici la définition même de Amalek. Celui qui a un pouvoir, celui qui est au plus haut, quand je vous prends un homme et l'élève et lui donne une fonction nationale, internationale, une grande fonction. C'est un individu particulier qui est grandi. Il doit utiliser ce pouvoir-là pour l'intérêt général. Il ne doit pas réduire ce vêtement, cet habit, ce costume qui est le pouvoir global à sa petite personne. Aman fait exactement cela. Il réduit le pouvoir, la position qu'il a obtenue à sa petite personne. Il dit, tout ça m'est gâché. D'ailleurs, quand il va rassembler ses proches, il ne parle que de lui. C'est la réduction. C'est le midat adin qu'il... C'est l'égoïsme. C'est la petitesse. C'est ça, Amalek. Il est dit dans le Zohar que Amalek est comparé à un chien. Un chien qui aboie. Il aboie tout le temps. Pourquoi le chien aboie-t-il? Pour qu'on s'occupe de lui. C'est lui. C'est lui qui est important. À la sortie d'Égypte, le verset dit que les chiens n'ont pas aboyé. Pourquoi les chiens n'ont pas aboyé? Parce que même les chiens, les égoïstes, par excellence, le Amalek, a compris que là, il faut se taire parce que le projet divin, le nom de Dieu, Yudke Vavke, apparaît. Et là, il se passe ici le projet divin qui jaillit dans toute sa puissance. Donc, tous les éléments égoïstes se sont tus, ont été muselés. Le jour de Kippour, le Zohar dit, le jour de Kippour, les synagogues sont pleines. Le jour d'Oshana et de Kippour sont pleines de gens qui prient. Et qu'ils demandent-ils? Ils disent à Dieu, donne-nous la santé, donne-nous la subsistance, donne-nous la réussite. Donne-nous, donne-nous. Le mot donné se dit en araméen, havlan, hav, hav, hav. Le Zohar dit, il les compare à des chiens. Le Zohar dit, la synagogue est pleine de chiens qui aboient. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Au lieu de penser à la grandeur du monde, à la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu soit rétablie, à l'intérêt général du projet divin. Ils ressemblent à ces chiens qui aboient et qui ne pensent qu'à leur égoïsme et qu'à leur intérêt. Ça, c'est le chien. C'est le chien qui aboie pour lui, c'est Aman. C'est Aman qui réduit la position qu'il a à sa petite personne. Et là, c'est le dîn qui va s'abattre sur lui. C'est la notion même de Pourim. Pourim, c'est chercher son propre intérêt et mettre de côté l'intérêt général. Mordechai est le contraire. Mordechai ne voit même pas Aman. Il voit que c'est un petit homme, c'est un tout petit. C'est un petit être, un enfant. Mohin de Katnout. Qu'est-ce que ça veut dire, Mohin de Katnout? Ça veut dire que quelqu'un qui ne voit le monde qu'à travers lui. Ça, c'est l'enfant. L'enfant, quand il naît, il est dans le berceau, il crie, il pleure pour que tout le monde soit autour de lui. Tous sont à mon service. Quand il grandit, il comprend que le monde est plus complexe. Celui qui a une fonction, il comprend que sa fonction, c'est qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Mordechai, il ne cherche pas sa personne, l'intérêt de sa personne. Il cherche l'intérêt d'Am Israël. Il cherche comment servir Dieu. Et il est dit, Mordechai Yahayehoudi, tout le temps où je vois Mordechai, le juif, qui ne bouge pas, parce que le juif, il sert Dieu, comme nous l'avons dit avant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Mordechai ne cherche pas son intérêt perso. Il cherche à servir Dieu et que l'intérêt général du peuple, le bien-être de toute la population, de tout Am Israël. Ça, c'est le contraire, l'anti-Aman. Et le verset dit, Vekolze eneno shoveli. Le Harizal dit, Vekolze eneno shoveli. Allusion au nom de Dieu, une composition du nom de Dieu qui est où les lettres sont à l'envers. Le He précède le Vav et le He précède le Yud. Vekolze eneno ze, dernière lettre, He. Eneno Vav, Shove He, Li Yud. Dit Harizal, ici, le nom de Dieu est à l'envers. C'est-à-dire que le din, comme si que les lettres féminines qui sont le he, les deux he, se refusent à recevoir les flux qui sont dispensés par les lettres masculines qui sont le yud et le vav. Aman s'est refermé sur lui-même. Il se refuse à recevoir. Il se refuse à servir, à utiliser les flux, la position qui lui est donnée pour l'intérêt général. Il se refuse à ça. Donc ces flux-là vont lui être retirés. Ce nom-là, quand les lettres féminines précèdent les lettres masculines, c'est le nom de la rigueur totale. C'est le nom de la rigueur qui va s'abattre sur lui. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il est déjà retranché de la source de vie. Nous devons apprendre ici une leçon terrible. Que l'essentiel de la Megillah, de l'attitude de Mordechai et de Esther, est justement de chercher l'intérêt des autres. L'intérêt, quand quelqu'un a une fonction, il ne doit pas la réduire à sa petite personne, il adopterait alors l'attitude de Aman. Il faut chercher l'intérêt général. Comment, par ma position à laquelle j'ai accédé, je peux faire le service de Dieu? Comment je peux chercher l'intérêt de tous? Comment je peux rayonner sur les autres pour les satisfaire et les faire progresser? Comment je peux rechercher le bien-être pour tous? C'est la notion de la royauté. Et cette royauté-là qui va être maîtrisée et concédée totalement entre les mains de Esther. Parce qu'elle cherche l'intérêt général. Esther est définie cette attitude-là, on est au service des autres. Baruch Adonai Leolam, amen ve'amen.